Bosco d'Ouiman.
Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Certains témoins des massacres survenus en 1988 dans les anciennes communes de Nega et Marangara réclament auprès de la Commission Vérité et Réconciliation un recensement pour identifier les victimes au nom de la vérité. Le président du parti Codebout se veut très critique envers le gouvernement dans la gestion de son patrimoine immobilier. Kéfane Wizi réagit au constat de l'énorme manque à gagner enregistré par l'État dans les loyers perçus par rapport au montant qu'il paye pour les bâtiments qu'il loue aux particuliers. Et une campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension a été organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du diabète qui intervient le 14 novembre. Les personnes venues se faire dépister reconnaissent l'importance du diagnostic précoce. Voilà pour le sommaire. Pour ouvrir ce journal, l'audience publique qui devait avoir lieu ce jeudi dans le procès concernant la journaliste Sandra Mouhosa du journal La Nova a été remise au mercredi 19 novembre prochain. Et pour motif, un membre du siège a dit avoir reçu le dossier tardivement et que donc il n'a pas eu le temps de le lire. Maître Eric Nivandetse, un des avocats de Sandra Mouhosa, avoue avoir mal accueilli cette remise qui prolonge le délai de détention alors que cette journaliste souffre. Sandra Mouhosa ne peut pas tenir debout sans béquille. Elle était d'ailleurs assise sur une chaise devant la barre. Certains témoins des massacres survenus en 1988 dans les anciennes communes de Nega et Marangara demandent à la Commission Vérité et Réconciliation de réaliser un recensement des personnes tuées dans ces régions afin que la vérité soit connue. En effet, les opinions divergent sur l'identité des victimes. Ils se sont exprimés ce jeudi lors d'une réunion organisée par la CVR pour préparer les enquêtes qui seront menées dans ces communes. Le président de la Commission Vérité et Réconciliation, Pierre Claver Ndaïcharier, les a rassurés que le recensement a déjà commencé. Clovis Niyonkuru.
De nombreux Burundais se souviennent encore des massacres survenus en 1988 dans les communes de Nega et Marangara, situées dans l'ancienne province de Kirundo. Lors d'une réunion tenue ce jeudi par la Commission Vérité et Réconciliation, CVR, dans le cadre des préparatifs d'une enquête sur ces massacres, Boniga Basiprié, l'un des témoins, a plaidé pour la réalisation d'un recensement afin d'identifier les victimes, qu'elles soient Hutu ou Tutsi. De son côté, Sunzu Salvatore, journaliste retraité à la radio nationale, a lui aussi demandé qu'une liste exhaustive des victimes soit établie, précisant que les Burundais ont besoin de connaître le nombre réel de personnes tuées dans ces communes. Face à cette demande, ambassadeur Pierre Claver Ndaïcharier, président de la CVR, a tenu à rassurer les participants que le processus de recensement est déjà en cours. Par ailleurs, plusieurs intervenants à la réunion ont estimé que la Commission Vérité et Réconciliation, CVR, devrait davantage collaborer avec les associations locales et la population afin de promouvoir une véritable réconciliation nationale. Ils ont également insisté sur la nécessité d'impliquer la jeunesse pour qu'elle ne reste pas prisonnière des divisions ethniques du passé.
Clovis Niyonkuru, le président du parti Codebout, estime que le gouvernement devrait mettre fin au contrat de location de ces maisons après avoir constaté une perte sèche par rapport au montant qu'il paye pour les bâtiments qu'il loue aux particuliers. Pour lui, les 9 milliards dépensés pourraient servir à construire d'autres logements. Kéfane Wizi part du rapport provisoire présenté par le Premier ministre Nestor Naonouye après une tournée effectuée dans les provinces de Bujumbura, Gitega et Bujumbura. Suivez-le.
Il s'avère incompréhensible que le gouvernement continue à travailler des bureaux roués alors qu'il possède ses propres maisons, à mon avis, qui pouvaient être utilisées comme des bureaux de certains services de l'État. Paradoxalement, nous louons ces bureaux pour plusieurs milliards de francs burundais alors qu'ils pèsent sur le dos du contribuable. Je crois que cela est dû à des intérêts, soit des locataires ou des propriétaires de maisons, et qui en tirent au détriment de de l'État. Et tout ce qu'on peut suggérer, c'est que tout d'abord, toutes les maisons de l'État qui sont louées par des particuliers ou par d'autres organisations qui peuvent servir de bureaux devraient être repris pour qu'ils puissent être utilisés par les services de l'État et remettre aux propriétaires les bureaux que le gouvernement loue à des budgets faramineux. Mais aussi, le gouvernement devrait contracter un crédit et pour construire ses propres bureaux. Je crois que les 9 milliards qu'on paie en termes de loyer chaque année pouvaient servir pour payer une dette. Au moins pendant 20 ans, on aura terminé à construire notre propre bureau, mais aussi à liquider toutes les dettes, malgré que je crois que cette approche serait difficile suite aux intérêts que les uns et les autres tirent dans cette location des bureaux de l'État.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
Santé à présent, se faire dépister avant de présenter les signes du diabète ou de toute autre maladie est très important. C'est ce qu'ont déclaré les citoyens venus se faire dépister du diabète et de l'hypertension lors d'une campagne organisée par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Docteur Oscar Niabossé, directeur général chargé du suivi des soins et des services hospitaliers, a précisé que même si les statistiques exactes ne sont pas encore disponibles, le nombre de personnes atteintes de ces maladies reste élevé. Cette campagne intervient à la veille de la Journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre. Stella Ndayishimiye.
De nombreux citoyens ont participé à cette campagne de dépistage de diabète et l'autre souvent associé qui est l'hypertension artérielle. Ces citoyens affirment qu'il est important de connaître leur état de santé et sont reconnaissants d'avoir eu l'occasion de se faire dépister.
J'ai décidé de venir me faire examiner pour connaître mon état de santé. Le ministère a fait une bonne initiative de faire ce dépistage, mais je souhaiterais que le ministère ne fasse pas ce dépistage seulement en date du 14 novembre, mais aussi songer à le faire deux ou trois fois l'année.
Ils encouragent également leurs concitoyens à aller se faire dépister.
Je l'interpelle à venir nombreux pour se faire dépister, parce qu'à un certain âge, à partir de 45 ans et plus, on a besoin de connaître son état de santé.
Selon le docteur Oscar Nihabos, responsable au ministère de la Santé, chargé de la supervision des soins et des hôpitaux, le ministère a organisé cette campagne afin de sensibiliser la population à l'importance du dépistage de cette maladie.
Nous avons organisé cette campagne pour lancer notre voix à une grande masse, de rappeler que le diabète est une réalité au Burundi. Le diabète, pas seulement le diabète, mais aussi l'hypertension artérielle, parce que ce sont les deux maladies qui sont toujours en couple.
La journée mondiale de lutte contre le diabète sera célébrée partout dans le monde ce vendredi 14 novembre, comme il est de coutume chaque année.
Des habitants de la commune Kayanza en province de Butanyerera ont des avis partagés sur le recours à la vasectomie comme méthode contraceptive chez les hommes. Certains trouvent que c'est un moyen sûr pour limiter les naissances, au moment où d'autres disent que quand un homme marié est définitivement stérilisé, sa femme continue à mettre au monde d'autres enfants hors mariage. Mokunzi Herbert Patrick, chargé du service de santé sexuelle et reproductive à Kayanza, fait savoir que le taux d'adhésion à la vasectomie est bas à cause des rumeurs selon lesquelles cette méthode est synonyme de castration. Patrick Saint-Guillaume.
Certains des hommes et femmes habitant la commune Kayanza dans la province de Butanyerera avec lesquels nous nous sommes entretenus sur l'usage de la vasectomie comme méthode contraceptive chez les hommes ont beaucoup divergé sur ce sujet. Les hommes nous ont précisé que la vasectomie est une méthode contraceptive sûre pour la limitation des naissances ces jours-ci où la vie devient de plus en plus chère, surtout à cause de la démographie galopante de la population. C'est au moment où d'autres hommes et femmes qui se sont exprimés sur le sujet nous ont signalé que ce n'est pas une bonne méthode contraceptive du fait que quand l'homme adopte cette méthode, dans beaucoup de cas la femme continue à coucher avec d'autres hommes et faire aussi des enfants hors mariage. Mokunzi Herbert Patrick, chargé du service de la santé sexuelle et reproductive à Kayanza, affirme que le taux d'adhésion à l'usage de la vasectomie est encore bas. D'après lui, certains des hommes sont mal informés qu'adopter la vasectomie, c'est comme se faire castrer, alors que cette méthode n'a aucune conséquence sur la santé sexuelle de l'homme. Depuis Kayanza dans la province de Butanyerera, Patrick Nsengiova pour la radio Isanganiro.
De Kayanza, rendons-nous à Boubanza, c'est pour parler éducation. Plus de 1000 bancs pupitres manquent dans les écoles des communes Manda et Boubanza de la province Bujumbura, selon la direction de l'éducation à Boubanza. Les parents se lamentent et disent qu'un enfant qui n'est pas bien assis ne peut pas bien étudier et demandent aux autorités de résoudre ce problème. Japhet Placide Bokeyeneza, directeur du département de l'enseignement en commune Manda, le reconnaît et tranquillise en disant qu'ils attendent les bancs que le ministère donne aux écoles chaque année. Spes Caritas Kavanyana.
Les enfants, surtout de première année, deuxième et troisième année, sont nombreux dans les salles de classe dans toutes les écoles, et s'assoient à 4, 5 et même 6 par banc pupitre. Les autres s'assoient par terre et il leur est difficile d'écrire comme nous l'avons constaté dans certaines zones de Gihanga et Manda. Les parents se lamentent et doutent de la réussite de leurs enfants. Ils demandent aux autorités de résoudre ce problème car dans la situation actuelle de pauvreté dans les familles, ils ne peuvent pas acheter un banc pupitre qui arrive à 70 000 francs burundais selon la même source. Et au niveau du département de l'enseignement à Boubanza et Manda, 11 100 bancs pupitres manquent dans les écoles pour pouvoir bien asseoir les enfants. Japhet Placide Bukeyeneza, directeur au département de l'enseignement en commune Manda, reconnaît ce manque de bancs pupitres dans certaines écoles. Il fait savoir que l'État, en passant par le ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, donne chaque année des bancs pupitres qu'on attend encore jusqu'à présent, cette année, comme il l'a dit. Spécialité Kavanyana en commune Manda pour la radio Isanganiro.
Et la présidente de la Confédération africaine de volleyball salue les progrès du Burundi dans l'organisation des compétitions internationales de volleyball de sable. Après une rencontre ce mercredi avec le président de la Fédération burundaise de volleyball, Bouchra El Hadjidj a indiqué avoir donné son accord de principe pour que le Burundi obtienne prochainement l'autorisation d'accueillir un championnat africain de beach volley qui rassemblera les 54 pays du continent. On l'écoute.
Les discussions avec Monsieur le Président et son bureau exécutif portaient sur les moyens et les outils de renforcer et voire développer la Fédération burundaise. Mais je ne vous cache pas, j'étais agréablement surprise pour la mise en place de l'Académie des jeunes du beach volleyball. Et je peux vous dire que ça n'existe nulle part en Afrique, avoir des enfants de beach, parce que vous le savez, beach est très technique, de 5 ans, 6 ans, etc. Donc en tant que KVB présidente de la Confédération africaine, on va s'asseoir juste après, on aura des réunions par Zoom pour mettre en place et voir comment on peut aider à réaliser ce projet. Les discussions également ont porté sur une succession de cours de formation, formation d'entraîneur, formation d'arbitre, formation de VIS ou digitalisation. Vous le savez mieux que moi aujourd'hui, les entreprises sportives sont gérées par le digital et donc il faut que la technologie suive notre fonctionnement. Également, les discussions ont porté sur la possibilité que le Burundi organise le championnat d'Afrique Beach Volleyball au niveau continental, senior men ou women ou l'une des compétitions, parce qu'aujourd'hui, je voudrais ramener les 54 pays, voir ce que vous faites, parce que si on travaille, on a la tête dans le truc et les autres ne savent pas ce que nous faisons, c'est comme si on ne travaille pas. Donc il faut médiatiser tout ce travail. Le président, il est en train de faire de l'excellent travail. Donc il faut le soutenir, vous, nous en tant que hiérarchie et confédération, et vous en tant que journaliste. Vous savez, sans votre soutien inconditionnel, un sport ne peut pas être développé.
C'était Bouchra El Hadjidj, la présidente de la Confédération africaine de volleyball. Le parti Savanya Frodebou félicite la radio Isanganiro pour ses 23 années d'existence et de diffusion. Le vice-président de ce parti a déclaré qu'ils sont satisfaits de la manière dont cette radio traite les informations, surtout éducatives, à l'intention de ses auditeurs. Fenias Niyigawa salue particulièrement les émissions politiques qui permettent aux gens d'exprimer leurs opinions divergentes, mais qui finalement convergent sur un consensus. Selon lui, le gouvernement devrait soutenir financièrement les radios indépendantes et si possible, même la population devrait aussi contribuer à la promotion des médias.
C'est une radio qui a bien travaillé, même dans les moments les plus difficiles. C'est une radio qui a continué à travailler, qui a continué à donner des informations à la population. Nous vous félicitons également parce que vous faites ça, ce travail, d'une façon professionnelle. Vous donnez des informations bien fouillées qui touchent tous les secteurs de la vie, notamment en politique, en économie, au niveau social. Donc, vous essayez d'aborder les informations qui concernent tous les secteurs de la vie. Et ça permet à la population de s'épanouir. En plus de cela, les trois fonctions, informer, éduquer et divertir, vous les touchez tous. Et ça permet à la population de s'épanouir, ça permet à la population d'être à l'aise et de faire un bon repos et de se préparer aux autres activités qui peuvent les aider à se développer. Au niveau du Parti Sonia Frodebou, comme les médias font partie des piliers de la démocratie, si la radio Isanganiro évolue positivement, le Parti Sonia Frodebou s'en réjouit parce que si les médias travaillent, surtout les médias privés, ça permet à la démocratie de se consolider. Nous vous demandons d'aller de l'avant, surtout de continuer à faire votre travail en invitant, comme vous le faites souvent, toutes les personnes sans distinction aucune, afin qu'ils puissent contribuer pour le développement du pays. Même si les défis ne manquent pas, surtout les défis d'ordre financier, surtout, que cela ne vous inquiète pas parce que nous pensons que le gouvernement peut avoir comment augmenter la part réservée aux médias pour les permettre de travailler convenablement. Même nous, au niveau de la population, il faudra voir comment nous organiser pour qu'on puisse chaque fois faire une petite contribution dans le peu que nous avons. Ça peut permettre aux médiums de travailler favorablement, surtout à la radio Isanganiro.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Et cette loi dont il est question, comme nous le faisons depuis peu, c'est le code minier du 4 août 2023. Aujourd'hui, nous parlons des articles 86, 87 et 89 de ce code. À l'expiration d'un permis d'exploitation de grandes mines, son titulaire doit exécuter à ses frais, selon les modalités prévues dans la convention minière, les travaux en vue de la sécurité publique et de protection de l'environnement, selon l'article 89. Je rappelle que le chef de l'État a récemment lancé officiellement l'exportation de différents minerais. Mireille Kanyangé, compte rendu de lecture.
Selon l'article 86 de ce code minier du 4 août 2023, le titulaire d'un permis d'exploitation de grandes mines ou la modiataire est tenu de mettre sans délai à la disposition de l'autorité compétente tous les moyens d'accès au chantier et de parcours des travaux accessibles, présenter les plans tant intérieurs qu'extérieurs, les registres d'avancement des travaux, les registres du personnel, de production, de stockage, d'expédition, d'investissement, d'exploitation, d'analyse et de commercialisation des produits, fournir tous les renseignements sur l'état de l'exploitation et faire accompagner dans sa visite l'autorité visée au point 1 par des agents compétents capables de lui fournir toutes les informations utiles, souscrire à une assurance pour ses employés, déclarer sans délai à l'autorité compétente tout accident survenu dans une mine ou dans ses dépendance. Selon l'article 87, le titulaire d'un permis d'exploitation de grandes mines est tenu de produire un rapport annuel technique et financier audité et à transmettre au ministre ayant les mines et les carrières dans ses attributions de donner la situation des réserves ainsi que de communiquer les nouvelles substances minérales découvertes. Le rapport est analysé et validé dans un délai ne dépassant pas 3 mois. Selon l'article 89 de ce code minier, à l'expiration d'un permis d'exploitation de grandes mines, son titulaire doit exécuter à ses frais et selon les modalités prévues dans la convention, les travaux en vue de la sécurité publique, les travaux de protection de l'environnement ainsi que les travaux pour la conservation de la mine et l'isolement de divers niveaux perméables.
Et ainsi se referme ce journal, mais ne tournez pas le bouton, nos programmes continuent.
Jean Bosco, Douiman.